Vous êtes sur 93.8 MHz, c'est la pleine lune sur Onde Femme Radio Zone. Ce soir, dans Cause Toujours, tu m'intéresses, le sexisme à l'école, le sexisme dans les livres scolaires, le sexisme dans les apprentissages. Ce soir, dans Cause Toujours, tu m'intéresses, femme de ménage et homme d'affaires.
Comme on nous disait que les filles, ça s'habille et ça se teint. On se mettait du noir sur les cils et on enfilait des bas fins. Comme on disait que les filles sont gentilles, ne sont pas. Oh, oh. On cultivait son apparence et l'on ne pensait plus qu'à ça. Ah. On cultivait son apparence, on ne pensait plus qu'à ça. Disait que les dames ont un crâne sans cerveau. On s'arrêtait de réfléchir pour ne dire que des mots. Comme on disait que les dames ont une âme et pas de génie. On faisait tout pour être bête et l'on sécrète et se m'ennuie. On faisait tout pour être bête, on s'écrète et se n'ennuie. Comme on nous disait que les mères, leur affaire, c'est le nid. Ce qui sortirait de nos ventres serait le centre de nos vies. Comme on disait que les mères doivent tout faire par amour. Ses sacrifices à son fils tous les jours. On raconterait ses sacrifices à son fils tous les jours. Comme on nous disait que les dames font un drame de vieillir. On avait peur devant la glace de sa face à venir. C'est que les dames se condamnent à l'abandon. On en devenait tracassière et amère en prévision. On en devenait tracassière et amère en prévision.
Peut-être même 20 ans qu'on parle de sexisme à l'école, qu'on dénonce le sexisme dans les livres scolaires, dans l'attitude des enseignants, dans la manière dont le savoir est transmis. Trop souvent, on lit encore dans les ouvrages scolaires pour apprendre à lire ou pour apprendre les langues. Maman reste à la maison, papa va travailler, papa lit le journal et maman fait la cuisine, la petite fille joue à la dinette et le petit garçon fait du vélo. Jeannette joue à l'infirmière et Jean joue au médecin. Ces stéréotypes dans l'éducation ont été dénoncés à de nombreuses reprises par des femmes comme Catherine Varlebregue, André Michel et tant d'autres, par des commissions particulières qui ont porté l'attention des pouvoirs publics et des enseignants et des enseignantes sur ce problème. Mais pourtant, depuis 20 ans, la situation ne change pas énormément. Pourquoi ? C'est la question que s'est posée André Michel, sociologue française, qui est venue présenter une conférence sur le sexisme dans les manuels scolaires à Genève en mars de cette année. Et elle nous parle plus particulièrement des oppositions qui se font jour, oppositions larvées, oppositions non ouvertes, qui font que la situation n'évolue pas. Pourquoi la situation n'évolue pas ? Pourquoi le sexisme n'est-il pas mis en cause ouvertement, comme c'est le cas par exemple du racisme, dans les livres scolaires ? C'est la question auquel répond André Michel.
Alors, donc, ça nous amène à la partie la plus importante de mon exposé, qui est l'examen des résistances au changement. Et je développerai la thèse, enfin l'hypothèse suivante, j'essaierai de la démontrer, à savoir que les acteurs sociaux impliqués dans ce changement sont intégrés à des sous-systèmes sociaux, l'école, l'entreprise, le système médiatique, etc., qui sont des systèmes ou des sous-systèmes patriarcaux par nature. Donc, il est très difficile pour ces acteurs de se libérer du sexisme véhiculé par ces sous-systèmes. Dès lors, comment changer les images et les stéréotypes dans les manuels quand tout dans la société, dans ces sous-systèmes et dans les images qui émanent de ces autres sous-systèmes, quand tout renvoie à ces stéréotypes traditionnels. Et c'est ce que je voudrais examiner en prenant chacun de ces sous-systèmes sociaux, les manuels scolaires n'étant qu'un élément, qu'une goutte d'eau dans cet ensemble. Alors, voyons d'abord la résistance du système scolaire et de ses acteurs. Parce que ici en Suisse, par exemple, ce sont les enseignants qui écrivent les manuels scolaires. En France, la plupart des manuels scolaires sont écrits également par des enseignants. Mais ces enseignants sont intégrés à un système scolaire, à un système, à un sous-système social qui est lui-même sexiste. Et par conséquent, ils sont imprégnés des valeurs et des images de ce système. Eh bien, regardons de plus près comment ça fonctionne. Par exemple, la hiérarchie enseignante, eh bien, on constate qu'il n'y a pas de différence, pas grand-chose, entre cette hiérarchie du point de vue du statut des deux genres, masculin et féminin, par rapport à ce qui se passe dans des entreprises privées. Plus on s'élève dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. En France, prenons la France, où 99,5% des femmes à l'école maternelle, 99%, oui, des personnes à l'école maternelle sont des femmes. Dans le primaire, c'est 75%, dans le secondaire, c'est 55%, et dans le supérieur, c'est 10 à 25%. Donc, au Canada, même pyramide, 89% au niveau primaire sont des femmes, 40% dans le secondaire, 16% à l'université. Au Canada, Francine McKenzie constate la régression des femmes dans les postes de direction au ministère de l'Éducation nationale au cours des 10 dernières années, et ceci en dépit de l'existence d'un fort mouvement féministe et de tout ce qui est fait par le Conseil du statut de la femme. Elle constate que, comme en France, les hommes enseignants au niveau primaire sont chargés plus souvent du deuxième cycle plutôt que du premier. Ils préfèrent les grands plutôt que le maternage, les infirmières, les nutritionnistes et les hygiénistes dentaires de l'éducation nationale au Québec sont des femmes. Le constat des enseignants comme des élèves, c'est que le rôle des femmes, c'est de soigner, d'entourer, d'aimer, et les rôles d'autorité sont dévolus aux hommes. En France, il est clair, les statistiques montrent que les directeurs d'école, les inspecteurs sont en majorité des hommes. Par exemple, il n'y a que 17 femmes dans une profession qui est très féminisée, il n'y a que 17 femmes sur 162 inspecteurs généraux. C'est un tout petit peu plus que 10%. Ce n'est pas beaucoup plus que les 6% de femmes qui sont députées à la Chambre des députés. Donc, vous voyez, le système scolaire, on pourrait penser que c'est un moteur du changement. Ce n'est pas plus, c'est aussi patriarcal que le système politique, par exemple. Donc, l'image de l'infériorité et de la dépendance de la femme, elle se forme lentement dans l'esprit des enfants, mais il est certain que c'est aussi dans l'esprit des instituteurs et des institutrices, ou des enseignants et des enseignantes. Alors, comment renverser cette tendance, se demande par exemple Francine Mackenzie. Elle donne une réponse qui est évidemment la situation canadienne, les mesures qui pourraient rééquilibrer la présence masculine et féminine à tous les niveaux de la hiérarchie enseignante ont peu de chances d'être mises en œuvre à court terme, car il y a un gel quasi total du recrutement de nouveaux professeurs. Et nous aussi, la situation a été gelée au cours des dernières années. Donc, il y a aussi des contraintes, il n'y a pas uniquement le sexisme du milieu enseignant, il y a aussi les contraintes extérieures, n'est-ce pas, comme on dit, c'est-à-dire l'enveloppe financière. En France, la hiérarchie sexiste se reproduit dans l'enseignement secondaire, surtout depuis que la fusion des écoles de garçons et de filles au nom de la mixité a diminué la proportion de femmes directrices des établissements secondaires. Au moins la non-mixité avait cet avantage qu'il y avait des directeurs d'écoles de filles, des directeurs d'écoles de garçons dans le primaire et dans le secondaire, et à partir du moment où c'est mixte, on enlève une chance aux femmes. On constate toujours à l'intérieur, mais c'est pour montrer qu'il y a une marge d'autonomie assez difficile quand on baigne soit comme enseignant, soit comme élève, soit comme formateur, quand on baigne dans ce système de sexisme généralisé. Alors, on constate aussi ceux qui ont étudié la relation enseignant-enseigné, constatent que les enseignants ne se comportent pas de la même façon à l'égard des filles et des garçons. Ainsi, en France, un groupe d'études constitué en 1980 à une école maternelle de Seine-et-Marne concluait que l'enseignement donné à la maternelle conduisait les filles à la soumission et à la passivité, que la turbulence et l'autonomie des garçons était relativement bien acceptée, alors que les institutrices avaient un souci excessif d'avoir des petites filles sages. Mais ça, c'était déjà il y a une dizaine d'années. Mais je me rappelle avoir fait une enquête en 1973 sur ce sujet, sur la socialisation différentielle des garçons et des filles, et je l'étudiais non seulement dans la famille, mais à l'école, et on me disait que les directrices d'école, à l'occasion de Noël, il est de tradition, par exemple en France, de faire un arbre de Noël et d'acheter des jouets pour des enfants. Eh bien, on achetait des petites cuisinières ou bien des petits balais pour les filles et puis des camions pour les garçons. En outre, ces enfants dès l'école maternelle sont déjà familiarisés avec les images, les stéréotypes sexistes. Il n'y a pas de manuel scolaire, mais on leur met entre les mains les albums du Père Castor ou les albums roses, et j'avais fait faire une étude à l'époque sur ces images, et c'était vraiment une dichotomie extraordinaire. Les petits garçons parcouraient le monde alors que les petites filles restaient accrochées aux jupes des mères, remplissant des fonctions de domestiques très souvent. Et là, on voit encore, on écrit dans ces recherches, on a écrit que le comportement des enseignantes en France avec leurs élèves, que les enseignants soient des hommes ou des femmes, que ce comportement n'est que le reflet de l'acceptation d'une prédominance du masculin sur le féminin. L'éducation demeure trop conservatrice pour parvenir à la fin d'une éducation adaptée à la personnalité de chaque individu. Elle perpétue un ordre social attaché à la division des tâches en fonction du sexe et non des aptitudes et des aspirations de chacune et de chacun. Il arrive que l'enseignant ou l'enseignante dévalorise le fait d'être une fille, sans l'avoir voulu peut-être, mais le résultat est le même. Et on donnait cet exemple, par exemple l'association pour une école non sexiste, donnait l'exemple d'un petit garçon, pour le punir, on le met dans le coin des filles. Il y a un coin des filles. Bon, il y a aussi le fonctionnement, on voit aussi fonctionner l'idéologie sexiste au niveau de la formation, de l'orientation et de la formation des jeunes filles. Ainsi, les filles sont jugées plus ou moins adaptées psychologiquement selon qu'elles se conforment ou non à des stéréotypes professionnels féminins qui ramènent à des métiers faiblement rémunérés, même si le niveau scolaire exigé est parfois élevé, métiers rapidement plafonnés, de prestige insignifiant et qui constituent en général de véritables ghetto d'emploi défavorisé. Les orienteurs, malgré toutes les circulaires qui ont été envoyées par le ministère au service d'orientation professionnelle, eh bien, ce que je viens de vous lire, là, c'est le constat d'une femme chercheuse de l'Institut national de recherche pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, les orienteurs ou orienteuses considèrent comme adaptées les jeunes filles qui, dans leur choix professionnel, choisissent des métiers typiquement féminins. Alors, qu'est-ce que l'on a fait à ce niveau en France? Eh bien, on a intégré l'éducation antisexiste dans la formation des maîtres et des professeurs dans les écoles normales. Je vous ai cité l'exemple de Nantes, à l'école normale de Nantes, par exemple. Cette école a organisé un stage de 15 jours sur le sexisme. Un travail de sensibilisation a été entreprise par une inspectrice d'académie avec un groupe d'enseignantes en liaison avec la déléguée aux droits de la femme et une conseillère municipale attaché à obtenir de la municipalité un budget spécial pour le remplacement des livres du primaire jugés sexistes. Donc, il y a eu toute cette des actions très en profondeur, si vous voulez, au niveau de la formation des maîtres dans les écoles normales. Au Canada, on a procédé autrement. On a distribué un questionnaire dont je vous donnerai une copie. On a distribué un questionnaire aux institutrices et aux instituteurs intitulé « Exercez-vous la discrimination sexiste dans votre classe ?» Alors, c'est composé de 17 questions. Et autrement dit, ça me semble intéressant quand même de faire appel à l'auto-évaluation des enseignants. Ça me semble une méthode intéressante. Bon, nous sommes toujours dans le sexisme à l'école, qui a été constaté dans les programmes scolaires, le matériel, les examens, Par exemple, en mathématiques modernes, on initie l'enfant à la notion des ensembles en lui montrant des formes qui rassemblent, associent comme par hasard les filles avec des poupées et les garçons avec des bureaux ou avec des machines. On cite aussi cet exemple de travaux pratiques imposés à des enfants de 12-13 ans qui passaient le certificat d'études. Dans cette épreuve de travaux pratiques, les filles devaient, comme par hasard, confectionner un tablier et les garçons une planche en bois à découper la viande. Pourquoi la viande? On ne sait pas. Et c'était en 76. Mais l'Association pour une école non sexiste a constaté en 82 que rien n'avait changé. Et que ces travaux pratiques en 82, pour passer le certificat d'études, eh bien les garçons devaient faire le croquis d'une ampoule électrique et dire ce que signifiaient les indications portées sur la lampe, tandis que les filles devaient répondre à la question, premièrement, pourquoi repasse-t-on le linge? Et deuxièmement, quelles sont les diverses utilisations d'un robot électrique? Alors, voilà où nous en sommes en France après 20 ans de révolution féministe. Je ne dis pas que c'est la règle, et malheureusement nous n'avons pas une étude quantitative qui permette de dire, bon, sur 80 exercices pratiques destinés qui entrent dans les épreuves pour le certificat d'études, eh bien, ça s'est passé 80 fois comme ça et 20 fois, ça a été quelque chose qui n'était pas sexiste. Mais enfin, c'est quand même des choses qui paraissent étonnantes. 20 ans après, l'indignation des féministes, enfin, ou l'identification tout au moins des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires. Bon, on a étudié aussi le sexisme dans les activités d'éveil. Par exemple, on parle dans les cours d'instruction civique, on parle de la déclaration des droits de l'homme, mais il n'est jamais question de la déclaration des droits de l'être humain. On ne parle jamais non plus de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Moi, je parle toujours de la France. Et malheureusement, je ne peux pas vous parler de la Suisse ni de... Ensuite, le sexisme non dans l'institution scolaire, on l'observe donc dans cette relation enseignant-enseigné à tous les niveaux, mais on l'observe aussi chez les élèves. Et on m'a signalé le cas, une institutrice voulait justement enseigner le foot aux garçons comme aux filles, plutôt comme aux garçons, et les garçons ont refusé, arguant que ce n'était pas la place des filles. Il y a aussi cette observation courante qui m'a été relatée par beaucoup d'enseignants et que j'ai pu constater moi-même. Quand on introduit l'ordinateur à l'école, ça devient la propriété des garçons et ils en évincent généralement les filles. Alors, quel est le rôle des professeurs? On voit que l'école est quand même source de sexisme dans la totalité de son organisation, de ces manifestations et des acteurs sociaux qui habitent cette organisation et qui travaillent dans cette organisation. Alors, il y a enfin le sexisme dans le vocabulaire et dans la grammaire. Une directrice d'école maternelle me disait que les chansons, les comptines, c'est-à-dire les petites chansons pour les enfants, ne mettent en jeu que des personnages masculins. Je serai le roi, par exemple. Alors, elle-même, elle essaie de changer la chanson et de dire je serai la reine, mais qui fait cet effort? C'est un effort incessant à tous les niveaux, dans les jouets que l'on met entre les mains des enfants de ces écoles maternelles, dans le choix des albums pour enfants, les albums du Père Castor, dans les chansons qu'on apprend, et finalement, il faut tout refaire.
Pourquoi elle fait ça la poupée? Elle le sait bien que ça donne froid. Le long de l'échine quand elle s'en va ailleurs se faire déshabiller. pourquoi elle fait ça. Elle sait que lorsqu'elle n'est pas là, ce qui vient se mettre à sa place, c'est l'inquiétude de la menace. C'est tout un nœud de fil de glace. Pourquoi elle fait ça? Peut-être bien qu'elle est méchante, qu'elle ne fait ça que pour s'amuser. S'amuser, s'amuser. Pourquoi elle fait ça la poupée? Elle le sait bien que ça déchire. Elle le sait bien que tout chavire quand on reçoit la vérité. Pourquoi elle fait ça? Comme elle le sait bien murmurer, toucher les nerfs les plus sensibles, les mots lui viennent tout paisibles, chercher la blessure invisible. Pourquoi elle fait ça? Peut-être bien qu'elle est méchante, qu'elle ne fait ça que pour blesser. Pour blesser, pour blesser. Pourquoi elle fait ça la poupée? Elle sait qu'elle n'a pas tous les droits et qu'il ne lui appartient pas, même s'il est venu se livrer. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a mis l'oreiller sur la tête de l'homme qui dormait, sur la tête de l'homme qui l'aimait, sur la tête de l'homme qui pleurait? Pourquoi elle fait ça? Peut-être bien qu'elle est méchante, qu'elle ne fait ça que pour tuer. Pour tuer, pour tuer. Pourquoi elle fait ça la poupée? Pourquoi elle est bien n'importe où? Pourquoi elle est mal n'importe où? Pourquoi elle regarde étonnée? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle rit à en pleurer sur les décombres, les vestiges? Pourquoi elle n'a pas le vertige, toute fragile sur sa tige? Pourquoi elle fait ça? Peut-être bien qu'elle est méchante, qu'elle ne fait ça que pour jouer. Pour jouer, pour jouer. La poupée, la poupée, la poupée.
Vous êtes sur 93.8 MHz, c'est la pleine lune sur Onde Femme Radio Zone. Ce soir dans notre émission Cause Toujours, tu m'intéresses, le sexisme dans les livres d'école. Ça s'appelle Femme de ménage et homme d'affaires, des définitions qu'on trouve encore trop souvent dans les livres qui sont dans les mains de nos petits garçons et de nos petites filles dans les écoles. Nous entendions André Michel, sociologue française, qui nous parlait des résistances au changement. Pourquoi cette situation de sexisme qui est dénoncée maintenant depuis plus de 20 ans, résiste encore, dure encore? Qu'est-ce qu'il y a comme résistance? C'est ce que nous vient d'expliquer André Michel. Résistance à l'intérieur même de la structure scolaire, à l'intérieur même de la composition du corps enseignant, de tout le système scolaire, de qu'est-ce qui est des professeurs, des enseignants, des enseignantes, des directeurs, des directrices, des inspecteurs, etc. Eh bien, maintenant, donnons la parole à ces enseignantes, justement. Et nous avons avec nous deux enseignants du primaire et de l'enfantine à Genève.
Chantal, Jean-Pierre, vous êtes les deux enseignants dans le primaire à Genève. Alors, primaire enfantine, Chantal, élémentaire, Chantal,
en deuxième primaire à l'école des Grottes.
Jean-Pierre,
en deuxième enfantine, aussi à l'école des Grottes.
Alors, on aborde ensemble le problème des stéréotypes sexuels à l'école et comment ils sont reproduits, comment ils sont véhiculés par l'école, par la structure scolaire, par le matériel scolaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une structure qui véhicule, qui reproduit ces stéréotypes? Jean-Pierre.
Bon, d'abord, j'aimerais dire que je pense qu'il faut s'écarter de l'analyse unique du matériel, des livres, des images ou du texte auquel l'enfant est confronté. D'abord, dans les petits degrés, l'enfant est peu confronté à des textes, à des manuels stéréotypés, édités par un département, par exemple. On crée nous-mêmes un matériel dans la classe. Et en plus, je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est plutôt dans la structure même de l'école. Et il s'agit déjà de regarder qui travaille avec les enfants, quel est l'exemple qu'on donne du monde à un enfant, par exemple, de 5 ans, en ne mettant dans son environnement scolaire que des femmes. Et alors qu'il sait très bien que dans les plus grands degrés, 4e, 5e, 6e primaire, il aura des maîtres.
Des maîtres et des maîtresses, c'est ça, mais c'est beaucoup plus partagé.
Et puis plus on monte dans la scolarité, moins de femmes.
Quand même pas, surtout actuellement.
Au niveau du secondaire, si on prend les enfants de 4 ans à, mettons, à 15 ans, jusqu'à la fin de l'école obligatoire, il y a de plus en plus d'hommes qui interviennent au fur et à mesure que l'enfant est plus grand et en même temps aussi que la scolarité devient plus importante, quand le message intellectuel est plus valorisé dans les plus grands degrés, on trouve plus d'hommes. Alors forcément, le message est clair, hein, le message sur la valeur même d'un homme, d'une femme dans la société, il passe plus à travers l'exemple. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à un enfant, il comprend lui-même le sens.
Toi, est-ce que toi aussi tu es peu confronté aux livres? Tu as un deuxième mot?
Oui, tout à fait. Alors les vieux bouquins, je les utilise plus du tout et depuis longtemps. Je prends que les tout récents qui ont été réédités il y a vraiment juste un an, deux ans. Je prends des fiches, je choisis, je sélectionne. Et j'avoue que ça me pèse pas du tout. Et j'utilise finalement peu quoi les bouquins, ou surtout pas les vieux bouquins.
Est-ce que c'est un critère pour toi dans le choix de ton matériel de donner une autre image aux enfants des hommes et des femmes?
Oui, tout de même, parce que si je tombe sur une fiche où il y a « Papa lit le journal, maman prépare, je sais pas, la salade pour le souper », ça m'ennuie, je sais que ça va ennuyer les enfants, ce n'est même pas leur actualité, enfin ce qu'ils vivent tous les jours. Moi, je vois dans ma classe, bon, c'est peut-être spécial, mais il y a quoi? Il y a 8 enfants sur 19 qui vivent avec leur mère. Autorité, donc, parentale, c'est la mère, par exemple. Il y a des filles. Deuxième primaire, c'est un âge, 8 ans, comme ça, 9 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il y a des différences vraiment incroyables. Il y a des garçons qui sont tout petits, tout bébés. Il y en a qui sont déjà plus développés. Il y a des filles dans cette classe aussi, peu de filles, hein, 2/3 garçons, 1/3 filles. Je vois plus par rapport aux élèves aussi comment se développent ces comportements. Ce sont les filles qui sont les plus raisonnables, les plus sages, les plus responsables. C'est comme ça avec mes grandes filles dans ma classe.
C'est justement une des constantes, non, des écoles primaires, c'est que les filles sont plus raisonnables, plus sages, les garçons plus batailleurs, moins scolarisés.
Mais là, je dirais, il y a des âges où les garçons sont plus bébés, peut-être plus maternés. Enfin, il semble, hein, qu'on ait aussi vu ça, qu'on soit rendu compte que les petits garçons, même 6 ans, 7 ans, semblent plus bébés que les filles. Peut-être oui, l'influence des mères, je ne sais pas, de l'éducation. Ça ressort beaucoup.
Par rapport à ça, moi j'aimerais ajouter, il faut être très prudent par rapport aux images qu'on a et qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie à un enfant. Le fait d'accepter de jouer sur le stéréotype, de nouveau, le garçon est terrible, difficilement scolaire, il faut plus s'en occuper, plus se motiver au niveau de l'école, et en plus un peu plus se contrôler parce qu'il aura plus tendance à faire des âneries, alors que la fille est sage, scolaire et tout. Alors bien sûr, c'est dans l'immédiat, de manière très très immédiate, c'est une valorisation de la fille, puisqu'on est en milieu scolaire, et puis on valorise la réussite scolaire de la fille, qui est meilleure que celle du garçon à cet âge, c'est sûr. Mais à plus long terme, qu'est-ce qu'on valorise comme comportement social d'un futur adulte, quand même? Tout ce qu'on valorise chez la petite fille en disant « bravo, tu es une bonne élève, tu travailles bien, tu es bien sage », c'est, pour bien, avec 15 ans d'écart, hein, Bravo, tu es une bonne maman, une bonne épouse, tu fais bien ton ménage, tu occupes bien de tes enfants et tu es même responsable de ton mari. Je veux dire, à terme, on valorise déjà chez la petite fille, parce qu'elle réussit bien à l'école, les comportements dont on aura besoin 20 ans plus tard, comme femme, modèle courant, je veux dire, dans la société, hein, c'est bien ça.
Oui, c'est-à-dire que moi, je dis, bon, bah, ces petits garçons qui sont plus bébés, je les pousse justement à se responsabiliser, à savoir s'organiser en groupe, à savoir, tu vois, être vraiment aussi, prendre une activité en main, puis arriver au bout, enfin, etc. C'est plus ça que je valorise chez les filles, que je dis ça, j'ai responsable, c'est pas du tout au niveau scolaire, je te mets une feuille sous le... Tu vois, je veux dire, c'est vraiment dans le sens de prendre de l'indépendance et de l'autonomie au sein d'un groupe, tu vois, ce qui n'est pas évident, bon, pour les petits-enfants, quoi.
Alors concrètement, dans le travail, dans les jeux, qu'est-ce que toi, Chantal, et toi, Jean-Pierre, vous faites pour essayer de casser un peu ces rôles? Toi, tu dis il faut faire attention à l'image qu'on renvoie. Alors comment ça s'intègre, ça, dans le travail et dans le jeu?
Volontiers. Oui, moi, je fais beaucoup parler les enfants de leur vécu, de comment ça se passe chez eux. Et comment ça se passe chez moi aussi. Je leur raconte aussi des petits morceaux de ma vie ou des choses comme ça. Et beaucoup de phrases, beaucoup de choses, même très scolaires, s'élaborent autour du vécu de l'enfant. Et justement, comme il y a dans cette classe un vécu très varié, je crois que ça fait aussi beaucoup, mais que plus, enfin, tous se rendent compte que telle et telle situation, c'est vivable, et c'est comme si, et pour eux c'est comme ça, pour d'autres c'est différent. Je crois que ça, c'est important.
Dans ma classe, au niveau activité, une de mes priorités, c'est de casser les schémas qui naîtraient d'abord d'une séparation liée à des étiquettes. C'est-à-dire, j'essaye systématiquement de ne pas entrer dans l'image. Les garçons sont terribles, les filles sont sages, qui est un mode de séparation des deux groupes. J'essaie aussi de garder toujours un maximum de cohésion dans le groupe classe totale, filles et garçons, dans des petits sous-groupes filles-garçons, de manière à ce que les garçons se retrouvent dans des jeux traditionnellement de filles, et les filles se retrouvent aussi dans des jeux de construction, des jeux plutôt, où on trouve en général plutôt les garçons. Et bon, c'est un effort quotidien de les donner aussi le temps de jouer ensemble à des filles, à des garçons, pour essayer d'éviter cette cassure et puis ce risque de s'enfermer dans un rôle très très précis.
Ouais, je trouve, c'est vrai, c'est important, c'est très bien. Mais il n'empêche que moi, j'ai des petites filles très délurées dans la classe à qui on n'a pas dit que le papa ça a tel rôle, la maman ça a tel rôle, pas du tout. En tout cas pas le rôle traditionnel forcément, et quand même les petites filles jouent à l'élastique et c'est super, je veux dire, elles se débrouillent merveilleusement bien et elles adorent ça. Il y a plein de jeux quand même qui sont des jeux de petites filles, et les petites filles entre elles ne jouent pas aux mêmes choses que les petits garçons, puis ça, je trouve pas que ce soit qu'il faille absolument qu'ils jouent tous au même jeu, tu vois, je veux dire, il y a aussi des bon, je veux dire, bien sûr c'est lié à plein de choses, mais il y a des jeux de filles et il y a des jeux de garçons aussi.
Mais ce que je disais avant, c'était pour éviter un danger qui est très très fort et qu'on trouve très vite à l'école, c'est l'interdiction pour les filles d'entrer dans le coin des plots et celle pour les garçons d'entrer dans le coin de poupée. Et j'ai vu beaucoup de classes.
Il est plus jeune, je pense aussi, effectivement, comme si c'était un danger, quoi, ou attention, où on met les pieds, quoi.
Même chez les jusqu'en deuxième primaire, en tout cas les degrés que je connais, dans beaucoup de classes que j'ai vu fonctionner, les filles n'allaient jamais au coin des plots, au coin construction, disons. C'était un tabou, c'était un interdit tacite dans la classe, mais c'était un interdit quand même. Et j'ai entendu par contre, même alors, et dans ma classe, des garçons dire ah non, dire à une fille ah non, tu ne viens pas ici, c'est chez nous. Donc, il faut en parler avec eux, c'est sûr, de tout ça. Alors, on peut en parler sur le moment, c'est très bien de dire « Ah, écoute,
Ça t'est déjà arrivé.
Oui, ça m'est arrivé.
Raconte-les.
Les réactions, c'est difficile d'en parler parce que c'est très instinctif presque, entre guillemets. Non, mais je veux dire, c'est une réaction première qui n'est pas réfléchie chez l'enfant. Il n'a pas réfléchi au pourquoi il dit ça et tout. Alors, ça nous dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Alors, il peut dire plein d'arguments qui ne tiennent pas debout, qui ne sont pas très cohérents. On peut le raisonner. On peut lui dire, ah, mais tu n'as pas raison, c'est la vie, ce n'est pas comme ça. Ça ne sert à rien. On peut faire plein de choses. On peut confronter par contre, ça c'est ce que j'ai fait souvent, confronter les avis différents. Montrer à un garçon qu'un autre garçon ne pense pas comme lui. Donc, même si on a un garçon, on n'est pas obligé de penser comme ça. Ça c'est déjà peut-être plus utile. Et je dirais, mais que même encore ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut quotidiennement, je pense à un exemple, que les enfants soient tous les jours dans une ambiance qui leur permette de prendre conscience que être garçon, être fille, ce n'est pas un moule, ce n'est pas un carcan. C'est une tendance peut-être, c'est d'autres possibilités ou d'autres intérêts, mais sans que ça soit quelque chose de définitivement fermé. Et ça, c'est vraiment très difficile. À un âge, et ça je l'ai ajouté, on a des élèves qui sont à un âge, on le sait, où ils ont besoin d'un certain cadre. C'est l'âge où ils sont le plus stéréotypés dans leur discours, dans leur comportement. Est-ce qu'il faut accepter complètement ou est-ce qu'il faut quand même se battre contre? Moi, je pense qu'il ne faut pas accepter complètement. Et puis, il ne faut pas être fataliste par rapport à cette idée, à cette constatation.
Il y a quelque chose qui dépasse un peu le cadre de l'école. C'est en fait la langue. La langue française, on le sait, elle véhicule énormément de stéréotypes. On connaît tous l'exemple du fait que dès qu'il y a un masculin dans une longue énumération de choses féminines, ça se conjugue au masculin. Est-ce que par exemple, dans l'approche que vous avez de l'apprentissage de la langue, vous en parlez, vous l'évoquez?
Moi, tout à fait. Mais je trouve qu'il ne faut pas aller dans l'autre sens non plus. Je veux dire, ce serait tout féminin. Il faut choisir. Il faut donner un genre. Quand il y a deux genres mélangés, un masculin, féminin, on pourrait dire c'est tout au féminin. Bon, il se trouve que c'est tout au masculin. Mais moi, je leur dis, et je souligne bien juste, bon, il faut accorder au même genre. Donc, un genre, bon, ma foi, c'est masculin, mais on aurait pu choisir féminin. Je veux dire, j'ai aussi un peu dépassé quoi, le stade où c'est attaque, c'est masculin. C'est quand même un des deux genres. Et puis voilà. Mais bien leur faire remarquer que il fallait choisir un des deux. Mais autrement, oui, ça, je relève facilement oui, les petites choses comme ça, et puis je l'ai dit comme ça, en boutade aussi même, souvent.
Peut-être qu'il y a des plus petits, peut-être qu'ils n'en sont pas encore à ce stade. Non,
un plus petit, ce que je trouve plus marquant, ce sont leurs erreurs de langage qui sont liées, alors par exemple, des fois, à la non-connaissance chez certains enfants de 5 ans, de ces cloisons sémantiques et des enfants qui disent sans aucun problème des mots qui sont faux au niveau grammatical. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre comme au niveau des métiers par exemple qui mettent au féminin des métiers qui ne se disent qu'au masculin. Parce que pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas autrement. Alors, ils se débrouillent pour trouver, pour changer un peu. Alors bon, ce que je fais, c'est que là, je laisse faire. Je ne corrige pas, parce que je trouve que ce n'est pas très important dans ce genre de choses. Et puis, je trouve ça correspond peut-être à un certain moment de leur développement où ils ont encore une vision assez ouverte, assez partagée peut-être du monde. Bah, tant mieux. Je ne vais pas la leur enlever maintenant.
J'allais ajouter autrement pour les activités physiques ou les choses comme ça, hein, la gym, la rythmique, enfin pas vraiment des jeux donc, hein, plutôt des activités sportives. Alors là, à cet âge, les garçons, les filles, il y en a qui sont très bonnes, très douées, qui aiment ça, les garçons la même chose, c'est très partagé, c'est bien aussi, il y a des garçons qui sont moins bons pour ça, qui aiment mieux d'autres choses, enfin c'est... Et puis juste pour un jeu ou des jeux, c'est vrai quand même. Et moi, je me suis demandé si ça venait de plus petit aussi, comment ça se passait plus petit. Les plots, des jeux de construction, j'en ai plein aussi. Et un espèce de aussi de plan de ville avec des petites voitures qu'on peut faire rouler sur le plan. Et puis plein de signaux de signalisation routière, etc. On peut se combiner plein de trucs, un petit plan. Ce sont les garçons qui jouent à ça et qui font des constructions fantastiques et des choses et qui peuvent jouer des heures quoi, à ça.
Mais à quoi jouent les filles alors justement? À quels autres jeux est-ce qu'elles jouent?
Bon, plein de trucs. Elles iront plutôt lire un livre, plutôt peindre, plutôt se raconter des histoires, tu vois, se raconter leurs petites combines. C'est vrai, ça, ouais. Ça, c'est sûr.
Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que les filles, elles développent dans le jeu énormément la relation sociale. Et qu'elles sont très. Ben, c'est pas pour rien que les femmes sont très bonnes pour ça, parce qu'effectivement, elles jouent à la relation sociale, à l'échange verbal.
Moi, je repense maintenant à des articles que j'avais lus à leur parution, sur des recherches faites aux USA. Je suis avec des petits-enfants à qui on présentait des jeux qu'on avait choisis en fonction de leur niveau de structure interne. Et on avait observé le choix, en fait, le choix spontané des enfants et leur manière de jouer avec ces jeux. Et systématiquement, effectivement, on voyait que les enfants choisissaient des jeux qui étaient au départ très très peu structurés en tant que jeu et où la structure devait être créée à l'intérieur même de l'action de jouer. Donc jouer au sable, jouer avec des plots qui sont un matériel très neutre. Et les filles choisissaient le plus souvent et en tout premier des jeux contenant une très forte structure interne où l'activité était déjà était préconditionnée en quelque sorte. Elle allait de soi. Il y avait presque un mode d'emploi. Comme jouer à la poupée. On joue à la poupée d'une manière très conventionnelle. Il y a une manière de jouer à la poupée en gros, hein. Des jeux comme la dinette aussi, on joue en façon de manger ou de servir à manger, on fait pas autre chose avec. Et une des conclusions, en fait, entre autres des chercheurs, était que, donc sur les causes, pas sur l'origine de ça, mais ça c'est quand même une autre histoire, sur les causes, c'était que les garçons allaient développer à long terme la capacité de créer et d'innover, alors que les filles allaient développer, elles aussi à long terme, la capacité de s'adapter et de reproduire des comportements déjà connus.
Vous êtes sur la pleine lune 93.8 MHz, sur Ondes Femmes Radio Zone, une émission sur le sexisme à l'école, dans notre rubrique « Cause toujours, tu m'intéresses ». Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis la Suisse 023 depuis Genève, 033 depuis le reste de la Suisse. Restez à l'écoute dans quelques instants, la suite de cette émission.
La première fois que je suis née, on m'a appelé petit caillou. Moi je me balançais sur ma ficelle, certains étaient couverts de baies, d'autres en roulant, je faisais des étincelles. Je suis restée en arrière,
je suis restée en arrière.
C'est bien le drôle de François.
Attendez-moi, petit frère.
La deuxième fois que je suis née, on m'a appelée petite graminée qui vit à l'ombre des maisons et se cultive en pots et en flacons. On m'a posée sur une cheminée entre 3 cm² de terre. Je voyais entre les volets mes frères devenir de grands chais de fer.
Attendez, attendez, attendez.
troisième fois que je suis née, on m'a rappelé petite libellule qui pond des œufs dans les marais et meurt soudain à l'heure du crépuscule. Je me souviens, c'était l'été et mes enfants naissaient toutes les heures parce que je me suis relevée. Mes frères étaient des oiseaux migrateurs. Quatrième fois que je suis née, on m'a appelée petite âne domestique que l'on éduque à tout porter, à coups de carotte ou à coups de tric. Je me faisais flatter ou battre. Pendant ce temps, mes frères en liberté se dressaient debout sur deux pattes, cessant de brèves pour se mettre à parler. On m'a mise en chambre et cuisine pour prendre soin de mes frères bien-aimés qui tout le jour dans leurs usines vont se durcir et se fossiliser.
Arrêtez là, retournez en arrière.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, sur Onde Femme. Notre numéro de téléphone, le 5040-51-41-023, depuis Genève, 033, depuis la Suisse. Ce soir, dans Cause Toujours, tu m'intéresses, l'éducation non sexiste, ou plutôt le sexisme à l'école, et quelles sont les résistances au changement. Pourquoi est-ce que toujours et encore, les manuels scolaires, le matériel scolaire, la structure même de l'école, donne comme image, reproduit ces stéréotypes où la petite fille est sage, où la petite fille va devenir une maman toujours obéissante, toujours sage, qui reste à la maison, qui s'occupe de son mari, de ses enfants, ou même si elle travaille, qui ne deviendra jamais, qui ne revendiquera jamais, qui ne quittera jamais sa position inférieure. Pourquoi les petits garçons, on leur transmet en tout cas d'une manière ou d'une autre cette attitude frondeuse, cette attitude qui ose, qui va de l'avant, qui crée, qui apprend, qui finalement s'impose. Pourquoi ce sont toujours des jeunes loups et des pauvres petites brebis? Nous avons entendu André Michel, sociologue français, qui nous a parlé des résistances au changement. Qu'est-ce qui, dans la structure même de l'établissement scolaire, empêche que l'évolution se fait? Nous avons entendu des enseignants du primaire et de l'élémentaire à Genève. Et maintenant, eh bien, parole aux enfants.
Garçons ou filles, c'est la même chose, oui ou non? On a voulu savoir ce qu'en pensaient des enfants. On a interrogé pour ça des enfants, on a pris les enfants qui nous tournent autour. C'est les enfants, ce sont les nôtres, ce sont ceux des copines et des copains. On en a interrogé 6. 5 vivent uniquement avec leur mère et vont de temps en temps chez leur père dans une autre maison. Une vit avec ses parents dans la même maison. Ce n'est donc pas tout à fait représentatif, mais ça ne fait rien, car c'est de tous que viendra l'avenir.
J'ai descendu dans mon jardin
pour y cueillir du romarin.
Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Un rossignol vint sur ma main.
Un rossignol vint sur ma main.
Il me dit trois mots en latin.
Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Que les hommes ne valent rien.
Que les hommes ne valent rien.
Et les garçons en combien moins.
Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Des dames, il ne me dit rien.
Des dames, il ne me dit rien.
Des demoiselles, beaucoup de bien.
Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Pablo.
Puis t'as quel âge?
4 ans.
Puis t'es un garçon ou une fille?
Un garçon.
C'est quoi un garçon?
Un garçon, c'est... Il n'a pas du tout de robe. Il a que des pantalons. Voilà.
Comment tu reconnais les filles? Comment tu sais que c'est une fille?
Parce qu'ils ont des robes et je les reconnais.
Mais il y a des filles qui n'ont pas de robe ou bien?
Tu crois qu'il y a des filles qui ont tous les jours des robes et tous les jours des pantalons, ton plomb.
Alors on peut seulement reconnaître les... Comment on fait pour reconnaître les filles et les garçons? S'il y a des filles qui ont des pantalons.
C'est pour... Parce qu'ils ont la figure comme une fille.
C'est comment la figure comme une fille?
Comme ça, tête, tout ça. Avec son barbe. Même pas de barbe. Tu vois, c'est bon comme ça.
Mais toi, t'as une barbe?
Oui.
Ah, oui.
Non, j'ai une moustache.
Non, c'est quand tu vas à l'école, elle va où ta maman?
Au boulot.
Au boulot? Elle fait quoi comme boulot, ta maman?
Elle ouvre les nuages.
Elle ouvre les nuages?
Oui.
Et puis quoi encore?
Ah non, elle fait l'architecte.
Mmh. Et puis toujours quand t'es à l'école, ta maman elle est au boulot.
Non, elle n'est pas au boulot. Des fois elle achète des choses pendant que je suis à l'école. Des fois, elle y va au boulot. Des fois, elle achète des choses. Des fois, elle va au boulot. Des fois, elle achète des choses. Des fois, elle va au boulot.
Et puis, quand t'es à la maison, elle fait quoi, ta maman?
Elle écoute des disques. Et puis, c'est fini.
Elle écoute des disques, c'est tout.
Ouais.
Puis des fois, elle fait à manger.
Oui. Et des fois, c'est moi qui écoute des disques.
C'est tout ce qu'elle fait.
Ouais. Des fois, c'est moi qui écoute des disques.
Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudras faire comme travail pour gagner des sous?
Moi, je connais quelqu'un qui est pas mon copain. Allez, de côté.
Ici. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand? Là-dedans.
Rien du tout.
Tu sais pas?
Je sais pas. Comme travail?
Oui. Pour gagner des sous.
Je sais pas.
Tu sais pas. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Qu'on travaille.
T'as fait. De faire le chantier.
De faire le chantier.
De faire le pilote d'avion.
Le pilote d'avion.
Ouais.
Et puis, tu voudrais apprendre à faire à manger?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'aime pas faire à manger.
Mais tu sais pas. Tu crois pas que t'es trop petit?
Oui, je suis trop petit.
Et puis après,
tu crois que je suis trop près? Tu crois que je suis assez près?
Comme ça, ça va. Quand tu parles comme ça, ça va.
Ben.
Tu voudrais apprendre à faire à manger?
Oui. Oui, ben. Moi, j'ai envie de boire.
Tu voudrais apprendre à nettoyer la maison?
Oui. Je n'ai pas à faire à manger.
Puis alors, c'est qui te fera manger? Tu mangeras comment quand tu seras grand?
Je mangerai des aiguilles et des rats à manger. Ça sera toi.
Tu t'appelles comment?
Léo.
Et puis tu as quel âge?
4 ans.
Et puis tu es un garçon ou une fille?
Un garçon.
C'est quoi un garçon?
C'est un homme.
C'est quoi un homme?
Je sais pas.
Tu sais pas ce que c'est un garçon. Alors comment tu sais que t'es un garçon?
Parce que je vois.
Tu vois à quoi tu vois que t'es un garçon?
Comme ça. Toi aussi tu vois que t'es une fille.
Mais comment je vois que c'est une fille? À quoi tu reconnais une fille?
Je sais pas, aucune idée.
T'as aucune idée. Et puis, tu vas à l'école?
Oui.
Et puis, quand tu vas à l'école, elle fait quoi ta maman quand tu es à l'école?
Elle travaille.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travail?
Elle fait du violon.
C'est pour gagner des sous. Et puis quand tu es à l'école, elle travaille toujours.
Oui.
Et puis quand tu es à la maison, elle fait quoi ta maman?
Elle fait aussi du violon des fois.
Et puis quand elle ne fait pas du violon, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle travaille.
À quoi?
Mais je sais pas.
Mais tu vois?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Je sais pas. C'est du violon. Je t'ai déjà dit.
Seulement du violon. Et puis, ton papa, quand tu es à l'école, qu'est-ce qu'il fait?
Il fait l'ordi. Il fait l'ordinateur à l'hôpital.
Et puis, quand tu es à la maison, qu'est-ce qu'il fait ton papa?
Aucune idée.
Et qu'est-ce que tu dois faire?
Bon, il écrit.
Il écrit.
Bien, c'est pas ce qu'il fait.
Et puis des fois, il fait à manger ton papa?
Oui.
Et puis qu'est-ce qu'il fait d'autre encore?
Rien.
Des fois, il nettoie? Oui. Et puis toi, Pablo, qu'est-ce qu'il fait ton papa quand tu es à l'école?
Rien du tout.
Tu sais pas?
L'hôpital.
Il est à l'hôpital. Et puis quand tu es à la maison chez lui, qu'est-ce qu'il fait?
Toi. Mais appuie-toi pas. T'as qu'à aller dans ton lit.
Qu'est-ce qu'il fait ton papa quand tu es à la maison chez lui?
Rien du tout.
Il fait rien? Puis maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
La cuisine.
Et puis c'est rien du tout ça?
Oui, c'est rien du tout.
Léo, qu'est-ce que tu vas faire comme travail quand tu seras grand?
Rien.
Rien? Alors, comment tu auras des sous? Pour gagner des sous, qu'est-ce que tu vas faire comme travail?
Rien.
Rien? C'est qui te donnera les sous, alors? C'est qui te donnera les sous?
Je vais les prendre de ma collection.
Ah. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais apprendre comme travail?
Je vais bricoler pour moi.
Tu vas bricoler pour toi. Et puis, tu vas apprendre à faire à manger? Oui?
Oui.
Et puis, tu vas apprendre à nettoyer?
Oui.
Et puis, tu vas...
Ça, de toute façon, je sais déjà.
Tu sais déjà. Et puis, jouer?
Oui.
C'est quoi ton jeu préféré?
C'est dessiner et les Lego.
Et puis tu penses
et
que...
Et bricoler aussi. C'est ça que j'aime le mieux.
Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que les garçons savent mieux faire que les filles? Ou bien que les filles savent mieux faire que les garçons? Ou bien c'est la même chose?
C'est la même chose.
La même chose? Qui c'est qui sait mieux faire à manger, ton papa ou ta maman?
Aucune idée.
Qui c'est qui sait mieux nettoyer, ton papa ou ta maman?
Aucune idée.
Qui sait mieux conduire une auto, ton papa ou ta maman?
Aucune idée. Je
sais pas.
Une chose comme ça, j'ai aucune
idée. Tu sais pas.
Comment puis-tu à quel âge?
6 ans.
Tu t'appelles comment?
Jeanne.
Alors, Jeanne, j'aimerais te demander d'autres petites choses. J'aimerais que tu me dises, d'après toi, est-ce que les garçons et les filles y jouent aux mêmes choses?
Non.
Et puis, quels sont les jeux à quoi jouent les filles que les garçons ne jouent pas? Quels sont les jeux que t'aimes faire, toi?
Tous.
Puis les garçons, ils jouent aussi à tous les jeux?
Non, au football, c'est le jeu préféré, je crois.
Tu connais les garçons qui aiment jouer au football?
Pas tous.
Puis toi, ton jeu préféré, c'est quoi?
Tous les jeux.
Tous les jeux? Mais alors les garçons et les filles jouent aux mêmes choses?
Non.
Les filles, elles jouent à tous les jeux et puis les garçons, ils jouent seulement au football?
Je ne joue pas au football. J'aime pas le football.
Mais qu'est-ce que tu joues tout le temps que tu aimes beaucoup, beaucoup jouer? Quand tu es avec tes copines, à quoi tu joues?
À la balançoire.
Puis les garçons, ils aiment la balançoire?
Je sais pas.
Tu connais des garçons qui font de la balançoire? Et puis, tu connais des filles qui font du football?
Oui.
Et puis, toi, tu joues pas au football?
Non.
Tu joues pas parce que t'aimes pas ou parce que tu sais pas?
Parce que j'aime pas.
Et puis, à quoi ils jouent encore les garçons que les filles, elles jouent pas?
Rien.
Rien? Tous les autres jeux qu'ils font les garçons, les filles, elles font aussi.
Ils jouent à la bagarre aussi.
Puis les filles, elles jouent pas à la bagarre?
Quelques-unes.
Pourquoi elles jouent pas à la bagarre?
Parce que je sais pas.
Tu crois qu'elles savent pas ou elles aiment pas?
Elles aiment pas.
Toi, quand tu joues parfois à la bagarre?
Non.
Puis quand t'es très très fâchée?
Oui.
Puis t'aimes bien?
Non.
Puis les garçons, tu crois qu'ils aiment jouer à la bagarre?
Je sais pas.
Tous les garçons. Tu sais ce que t'aimerais faire plus tard quand tu seras grande? Comme métier?
Oui.
C'est quoi?
Infirmière.
T'aimerais soigner les gens?
Ouais.
Mais t'aimerais pas être docteur?
Non, j'aimerais être magicienne.
T'aimerais être magicienne? Ouais. Pas infirmière? Ouais. Mais si tu devais choisir entre infirmière ou docteur, t'aimerais mieux être infirmière?
Ouais.
Ou mieux docteur?
Mieux infirmière.
Pourquoi? Tu crois qu'elle soigne mieux les gens?
Non, mais parce que... c'est eux qui soignent les docteurs, c'est eux qui leur disent.
C'est les infirmières qui soignent? Puis les docteurs, ils font quoi?
Parfois, ils soignent, mais pas toujours.
Mais mieux, ce serait d'être magicienne?
Ouais.
Tu serais dans un théâtre?
Ouais.
Ou tu serais une vraie magicienne?
Je serais une vraie.
C'est un métier, tu crois, être une vraie magicienne?
Ben, je pourrais faire de la magie, que j'ai de l'argent.
Mm-hmm. Mais tu aimerais avoir un métier que tu sais faire?
Oui.
Ce serait quoi?
Bonne.
Bonne?
Ouais.
C'est quoi, être bonne?
C'est de travailler, faire le ménage.
Mm-hmm. Et puis, si tu voulais être réparatrice d'auto, tu crois que tu pourrais?
Non.
Pourquoi?
Que... je sais pas. Parce que je connais pas encore très bien les autos.
Mais si tu apprenais?
Non, je pourrais, mais j'aimerais pas.
Et puis tu crois que tu pourrais, si tu voulais, être pilote d'avion?
Oui.
Tu aimerais être pilote d'avion?
Non.
Pourquoi t'aimerais pas?
Parce qu'on peut tomber du ciel.
Et puis, maintenant, j'aimerais que tu me dises, quand toi, tu vas à l'école, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman?
Je sais pas.
Elle te dit pas ce qu'elle fait?
Non.
Tu crois qu'elle fait quoi?
Je crois qu'elle est à la maison.
Elle fait quoi à la maison?
Parfois je crois qu'elle lave. Et parfois je crois qu'elle fait à manger. Bien, parfois elle est à la gymnastique.
Et ton papa, quand t'es à l'école, qu'est-ce qu'il fait?
Il travaille toujours.
Tu sais qu'est-ce qu'il fait comme travail?
Non. Mais je sais. Il fait un travail pour écrire des livres.
Et oui, quand toi t'es à la maison, qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Tu vois pas ce qu'elle fait?
Parfois elle fait à manger. Parfois elle va chercher Loïse à la maison des enfants.
Quand vous êtes à la maison, elle s'occupe de toi et de Loïse?
Ouais.
Et puis quand vous dormez, toi et Loïse, qu'est-ce qu'elle fait ta maman?
Regarde la télé ou le journal.
Et puis ton papa, quand t'es à la maison, puis qu'il est aussi à la maison, qu'est-ce qu'il fait?
Eh ben, il doit toujours travailler.
Aussi à la maison? Il travaille? Il travaille pour son livre qu'il écrit, ou il fait un autre travail?
Mais son livre qu'il écrit, c'est pas un vrai livre qu'on va mettre dans le magasin, c'est des livres qu'il écrit, qui est pas intéressant.
Dis-moi, comment tu t'appelles et t'as quel âge?
Je m'appelle Francesca et j'ai 9 ans.
Francesca, j'ai demandé aux autres enfants ce qui tu pensais était différent entre les filles et les garçons. Si les filles, elles faisaient des choses que les garçons, ils faisaient pas. Papa. Et si les garçons, ils faisaient des choses que les filles, elles faisaient pas.
Eh ben, les garçons se bagarrent beaucoup.
Les filles que tu connais, elles se bagarrent pas?
Bah, j'en connais quelques-unes.
Mais les garçons, ils se bagarrent plus?
Eh ben, non.
Ils se bagarrent pas plus que les filles?
Non.
Et puis, toi, tu te bagarres?
Bah, pas beaucoup.
T'aimes pas ça ou tu sais pas?
J'aime pas ça.
Puis si t'es fâchée?
Bah, des fois oui, puis des fois non.
Et puis, qu'est-ce qu'elles jouent, les filles, que les garçons, ils jouent pas?
Eh ben, saute-mouton, et puis, je sais pas. Non, parce que les garçons, quand on jouait à l'élastique, ils voulaient aussi.
Tu aimes jouer aux poupées, toi?
Non.
Non? Même les Barbie?
Ouais.
Puis, tu connais des garçons qui aiment jouer aux Barbie?
Oui.
Tu crois que les garçons ils jouent tout autant aux Barbie que les filles?
Non.
Pourquoi tu crois? Ils aiment pas ou ils savent pas?
Ben parce que ils aiment pas beaucoup, mais ils en ont quand même des fois.
Puis quand tu seras grande, qu'est-ce que tu aimerais être comme métier?
Biologiste, et puis je sais pas. Zoologiste, je veux dire.
Biologiste?
Zoologiste.
Zoologiste. T'aimerais étudier les animaux.
Mm-hmm. Et puis, je sais pas. peut-être d'autres métiers.
Tu aurais plusieurs métiers en même temps ou tu ferais un métier puis un autre et un autre?
Bah, quelques métiers, un métier pour gagner l'argent quand je serai jeune et puis quand je ferai la biologie dans, j'étudierai la biologie à l'Uni, je sais pas.
Dis-moi maintenant, quand toi t'es à l'école, qu'est-ce qu'elle fait ta maman?
Bah, ma maman, elle travaille sur son mémoire.
Elle travaille sur son mémoire. Tu sais ce qu'elle fait comme travail?
Ouais. C'est quoi? On dit le nom.
Essaye d'expliquer, alors.
Eh bah, elle dit comment on parle. Elle dit les réactions qu'on a quand on parle.
Et puis, elle gagne de l'argent avec ça, en faisant son mémoire?
Non. C'est pour être licencié et puis pouvoir travailler.
Elle a aussi un autre travail pour gagner de l'argent ou on lui donne de l'argent? Comment elle a son argent, ta maman?
Eh ben, elle gagne du travail parce qu'elle va à solidarité.
Elle a un travail dehors où elle gagne de l'argent? Tu sais qu'est-ce qu'elle fait comme travail dehors?
Oui, elle a des femmes battues.
Et puis, quand elle est avec toi dans la maison, qu'est-ce qu'elle fait?
Bah, des fois, elle travaille le mémoire, des fois, elle fait à manger, des fois, elle fait l'aspirateur, elle repart, et puis des fois, elle fait du bain.
Et puis, quand t'es avec ton papa, quand il était encore à Genève, ouais. Quand t'es avec ton papa, lui, qu'est-ce qu'il fait avec toi?
Eh ben, des fois, il va quelque part, puis normalement, il est en train de travailler, mais j'ai ma demi-maman.
Puis qu'est-ce qu'elle fait, ta demi-maman, avec toi, bah, quand t'es avec toi dans la maison?
Des fois, elle va travailler, mais des fois, aussi, elle part, puis mon papa, il s'occupe pendant ce temps qu'on joue.
Et puis, toi, tu penses que si tu voulais être comme métier... Réparatrice d'auto, tu pourrais? Si tu voulais, hein?
Oui.
Qu'est-ce que tu devrais faire pour être réparatrice d'auto?
Eh ben... aller essayer de travailler.
Et si tu voulais être pilote d'avion, tu pourrais?
Eh ben ouais.
Tu crois que t'aimerais être pilote d'avion?
Ben non.
Pourquoi?
Bah, parce que j'aime pas quand on a des secousses ou tout le temps voyager.
Tu t'appelles comment? Et puis tu as quel âge?
J'ai 8 ans et je m'appelle Mathias.
Mathias, je suis en train de... J'aimerais bien savoir si tu penses que les garçons, ils jouent aux mêmes choses que les filles.
Non.
À quoi ils jouent les garçons que les filles, elles jouent pas?
Au football, je sais pas.
Tu joues au football, toi?
Hein?
Tu joues au football?
Oui.
Tu connais pas du tout de filles qui jouent au football?
Non.
Puis à quoi tu joues encore que les filles, elles jouent pas?
Je sais pas.
C'est à quoi que tu aimes beaucoup, beaucoup jouer?
Hein?
À quoi? C'est quoi ton jeu que tu aimes le plus?
Ouais, mais ça, c'est les deux qui jouent.
Les deux? La chose que tu aimes, les filles et les garçons? Ouais. Bah dis-moi quand même, qu'est-ce que tu aimes?
Moi, c'est les petites voitures.
Puis les filles, elles jouent aussi aux petites voitures?
Bah ouais.
Et puis, à quoi tu aimes encore jouer?
Au train électrique.
Les filles, elles jouent aussi au train électrique?
Oui.
Et puis, à quoi encore tu joues?
Au train en bois.
Et puis, les filles, elles jouent à quoi? Les filles que tu connais?
Aux poupées, souvent.
Puis, toi, tu joues parfois aux poupées?
Non, pas souvent.
Parfois?
Moi, des fois. Mais je joue plutôt avec les plus.
Tu crois que les filles, elles jouent pas au football parce qu'elles aiment pas ou parce qu'elles savent pas?
Je sais pas. Peut-être parce qu'ils savent pas où jouer.
Et puis tu crois que les garçons, ils jouent pas aux poupées parce qu'ils aiment pas ou parce qu'ils savent pas?
Bah parce qu'ils aiment pas jouer.
Et puis toi, t'aimes mieux jouer avec une fille ou avec un garçon?
Ça dépend les jours.
Les filles, elles se bagarrent?
Des fois, mais pas souvent du tout.
Toi, tu fais la bagarre?
Non.
T'aimes pas ou tu sais pas?
Parce que j'aime pas tellement.
Est-ce que tu sais quel métier tu dois faire plus tard?
Oh, je sais pas encore. Il y a plusieurs métiers.
Quoi?
Il y a inventeur et puis musicien.
Vous êtes sur la pleine lune, 93.8 MHz, sur Ondes Femmes Radio Zone. Ce soir, dans Cause Toujours Tu M'intéresses, c'était le sexisme à l'école avec la réaction des sociologues, la réaction des enseignants et la réaction des enfants. Comment est-ce que les enfants se voient, garçons, filles, comment ils voient cet univers sexué, comment ils se voient, comment ils voient leurs parents, leurs mères, leur père, comment ils se voient dans le futur. Alors, ce qui semble étrange, bon, bien sûr, on a pris des enfants très petits qui s'expriment pas toujours très bien, c'est que d'un côté, on sait très bien, les filles, elles font ci, les garçons, elles font ça, les filles, c'est pas la même chose que les garçons, mais au moment où il s'agit vraiment d'entrer dans l'explication, dans l'exemple, eh ben, ça devient un peu plus flou. Oui, d'accord, les filles, elles se bagarrent pas, les garçons ils se bagarrent, mais en fait les garçons ils aiment pas tellement se bagarrer que ça. Et puis il y a aussi des filles qui se bagarrent. Alors les garçons jouent au foot, les filles jouent à la poupée, mais il y a des garçons qui aiment pas du tout jouer au foot, et puis il y a des filles qui aiment bien jouer aux poupées, et puis il y a des filles qui jouent pas aux poupées. En fait, ça, on voit vraiment quand même qu'il y a une espèce de d'idéologie qui a déjà imprégné ces enfants, mais au moment où ils doivent vraiment voir les choses dans le concret, c'est plus différent, c'est plus souple et ça laisse quand même une porte à des changements. Eh bien, cette émission se termine là. Vous êtes sur 93.8 MHz. C'est la pleine lune sur Radio Zone. Dans Cause Toujours Tu M'intéresses, ce soir, c'était le sexisme à l'école. Et maintenant, on vous laisse en compagnie d'un pianiste magnifique, Gerry Allen. Vous êtes sur la pleine lune 93.8 MHz, Ondes Femmes sur Radio Zone. Nous écoutons la pianiste Gary Allen dans une composition de Gary Allen. Ça s'intitulait Mama's Babies. La pleine lune 93.8 MHz, c'est votre radio avec un numéro de téléphone 5040 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis le lac de Constance, et aussi une adresse Ondes Femmes sur Radio Zone 7 boulevard Karl Vogt 1205 Genève. Vous pouvez bien sûr nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous envoyer des sous. Eh oui, pourquoi pas acheter une carte d'auditrice ou une carte d'auditeur en laissant un message sur le répondeur téléphonique au numéro 5040 51 41 ou en nous écrivant à Ondes Femmes sur Radio Zone 7, boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Et toujours avec Gary Allen, Bem Chaswig, une composition de Thelonious Monk. Onde femmes 93.8 MHz, restez à l'écoute dans quelques instants à la suite de notre programme.